Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous, comme tous les mercredis, donc, de 20h à 21h, l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes. On va passer à quelques annonces. J'en ai une, que vous avez entendu ces dernières semaines, puisqu'on va la refaire. Hein, ouais. Puisque c'est pour demain.
Il faut. Il n'y avait peut-être pas assez de monde lundi soir sur la première annonce, donc ce serait bien qu'il y en ait plus demain.
D'accord. On espère, puisque ça sera à Villeurbanne. Donc, c'est cette annonce de ces dernières semaines du collectif de défense de l'IVG dans le Rhône, avec un panorama du droit à l'avortement en Europe, avec un décryptage des lobbies anti-choix européens, qui sont toujours là et qui font du boulot.
Et de plus en plus nombreux, ouais. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec la Pologne, mais ouais, c'est assez effrayant.
Voilà, c'est, comme tu dis, c'est effrayant. Donc, c'est ce jeudi 7 avril à 19h30, je rappelle l'adresse, hein, c'est au Palais du Travail, 9 place du docteur Lazare Goujon à Villeurbanne, donc 19h30, hein, notez bien cette heure. Ça sera une projection débat avec ce film Yo Decido El Tren dans la Libertad de 80 réalisatrices, documentaire donc qui raconte la mobilisation des pro-choix en Espagne et ailleurs pour le droit à l'avortement. Ce documentaire collectif est engagé, revient sur les grandes actions menées contre le projet de loi anti-avortement de, on se rappelle, hein, du gouvernement, j'allais dire rabat-joie, mais il s'appelle simplement Rajoie.
Rajoy.
Donc, c'est en Espagne et ailleurs, hein, évidemment, ça existe aussi, l'occasion donc de revivre les manifestations du 1er février qui avaient réuni des dizaines de milliers de femmes et d'hommes à travers l'Europe, donc, contre ce projet. Que dire encore, quelle nouvelle, il sera, on parlera, je vais y arriver, on parlera donc de où les femmes peuvent-elles avorter, donc avec point d'interrogation bien entendu, quelles nouvelles avancées, quelles régressions, et qui sont les anti-choix, quelles sont leurs stratégies et leurs actions, donc bien les connaître pour mieux les combattre.
Ouais, puis au niveau du vocabulaire, c'est hyper important du coup de bien dire anti-choix, parce que se font appeler pro-vie. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils empêchent les gens en fait de pouvoir faire des choix justement. Donc c'est bien des anti-choix contre des pro-choix en fait. Voilà. Mais du coup ces pro-vie là n'existent pas. Hein. C'est juste des personnes qui empêchent les gens de pouvoir faire ça.
Comme donc, notamment les femmes dans Lyon, à l'Hôtel Dieu.
Exactement.
Contre lesquelles on s'est largement opposé. Ça finissait assez mal d'ailleurs.
Tout à fait. Donc on espère qu'il y aura du monde du coup demain soir.
Avec la police.
Et du coup deux trois autres annonces. Pour vous dire, c'est pas dans l'ordre, je suis désolé et je suis un peu essoufflé, mais on va y arriver. C'est un repas de quartier. Il y a une zone de gratuité, donc place Colbert, donc avec le retour des repas de quartier. Avec le printemps, voilà le retour donc du repas de quartier de la place Colbert. C'est ce samedi 9 avril de 11h à 16h. Bon, faudra peut-être plier bagage à 13h30 parce qu'il y a manif à 14h. On en reparle tout à l'heure. Venez donc avec le soleil, un ou plusieurs plats à partager, quelques liquides pour trinquer, quelques assiettes et couverts. N'oubliez pas votre bonne humeur et vos envies de rencontre, voilà. Donc c'est ce samedi à partir de 11h sur la place Colbert. J'ai noté aussi, alors c'est demain, donc c'est une autre chose, mais on vous conseille quand même plus d'aller à l'annonce précédente, mais il y a aussi un truc à la griffe. À 19h, c'est la projection du documentaire « À Bure pour l'éternité » en présence de ses réalisateurs. Donc voilà, le document « À Bure pour l'éternité » traite du projet d'enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs issus des centrales sur le site de Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question de l'environnement et en filigrane celle du modèle économique et social que l'on souhaite offrir aux générations futures en présentant des alternatives. Donc voilà pour la deuxième petite annonce. Et la troisième, j'ai du mal à prendre mon souffle, je suis désolé.
Je suis mis en courant. Pourtant tu fumes pas.
Non. C'est un séminaire genre et géographie sociale, donc animé par le réseau de géographes libertaires, donc c'est le 8 avril. Et ça se passera, je ne sais plus où, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur, si ça y est, je l'ai ça. C'est de midi à 16h. Et salle 303 au troisième étage du 18 rue Chevreul. Donc voilà, si vous voulez y aller.
Je
vous ferai une autre annonce tout à l'heure, mais c'est plus par rapport à la mobilisation sociale qui est en ce moment contre la loi travail, contre l'état d'urgence and co. Est-ce qu'on essaye de brancher la petite interview pour ça marche ou tu préfères
C'est comme
que tu le
veux.
Sens.
Hein, programme, on l'a pas fait, on n'a pas fait le chemin de fer comme on dit, mais bon.
Donc voilà, donc ce que je propose, qui me permettra de reprendre mon souffle aussi, donc c'est de vous passer une interview d'un salarié. Il y a un mouvement de lutte qui s'est installé à Vénissieux, donc on va le lancer.
Allez, c'est parti. Ah, ça marche pas, donc c'est un peu nouveau pour nous.
C'est Jean-Louis Masson, je suis secrétaire du CE de Bosch Rexroth DSI. C'est une entreprise qui est sur Vénissieux. Voilà, c'est un site Bosch qui existe depuis 1938. Au départ, c'était l'Acidma, une grande entreprise qui était très diverse avec des produits d'injection, des produits mécaniques, des produits hydrauliques. Les années 70 ont été un peu difficiles avec la séparation d'une part d'une partie chez Bosch et d'une autre partie chez Rexroth. Deux groupes allemands qui se sont partagés le site, deux cultures différentes, et on s'est retrouvés il y a une dizaine d'années lorsque Bosch a racheté Rexroth. Avec le Monopoly, nous, on avait été absorbé à l'époque chez Mannesmann. Et Mannesmann avait été racheté par Vodafone, qui était à la grande époque de la téléphonie mobile, qui démarrait en 2000. Et du coup, ils ont revendu tout ce qui les intéressait pas, entre autres notre division. Et donc, c'est parti. On a fait tomber le mur entre Bosch et Rexroth. Et on est tous Bosch maintenant. Et on avait l'espoir d'un site multi-produit où il y avait une partie photovoltaïque qui avait déjà été amenée de ce côté-là, une partie hydraulique, une partie injection diesel. On avait l'espoir de faire un grand site avec 1200 personnes au niveau industrie. Il y avait du potentiel, il y a des bureaux d'études, il y a de la conception, il y a de la mise au point,
et
il
y a des achats. Et là, actuellement, il y a combien de salariés sur le carreau
Et là, actuellement, ça se divise parce qu'il y a plus que 130 personnes au niveau panneau photovoltaïque. Il y a 160 personnes seulement au niveau diesel, alors qu'ils étaient 800, voire 1000 il y a quelques années. Et nous, on est à 360, plus une société commerciale où ils sont à peu près 200 sur le site de Vénissieux. Donc ça fait encore 900 personnes qui sont sur le site, alors qu'il y avait 1500, voire plus. Et là, on s'aperçoit que ça part un peu par petits morceaux. Diesel, les 160 personnes ont l'inquiétude parce qu'en mars 2017, ils vont arrêter la production. Le groupe a annoncé le mois dernier, un an avant, la fin de production. Donc il faut qu'ils cherchent des solutions alternatives, et ça va être très compliqué dans le groupe. C'est très compliqué. Chez nous, on a une division qui est dans les difficultés économiques parce qu'on a des produits qui sont très concurrentiels et on a des pertes depuis de nombreuses années. Tout notre secteur d'engins mobiles, notre marché, c'est les engins de travaux publics. On a des clients comme Caterpillar, Poclin, etc., Komatsu. Et on a des produits à très faible marge où on perd de l'argent, et le groupe veut stopper l'hémorragie des pertes et nous demande un plan d'économie, entre autres pour nous, de 19 millions sur 3 ans. Et 19 millions, sachant qu'on fait 80 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Mmh. Et avec eux, ça passe par une délocalisation d'une bonne part de notre production sur des sites à bas coût, par exemple la Turquie, la Chine, le Brésil.
Et là, actuellement, il y a quoi comme syndicat, comme force syndicale présente dans la lutte ?
Eh ben, pour l'instant, on est en intersyndicale, c'est-à-dire que la CGC, la CGT et FO font front uni pour résister face à ce plan d'économie, parce que on voit bien que ça se fera avec une casse sociale importante. Le minimum des scénarios, c'est 110 personnes sur 360, donc ça fait quand même énorme. Sachant qu'on a déjà fait un plan de départ en pré-retraite l'année dernière pour des indirects de 15 personnes, qu'on fait des départs naturels aussi, on fait des ruptures conventionnelles.
Ouais.
Donc on voit que à terme, même si 110 personnes partent de la société, cette société ne pourra pas résister dans le temps, parce qu'elle sera vidée de sa substance et on aura beaucoup de mètres carrés avec très peu de production et encore trop de structures.
Et avec la loi travail, les annonces sur les facilités de licenciement.
Ça va être forcément la porte ouverte à la fermeture du site. On la voit se profiler aussi bien chez nous qu'à côté. Ça fait quand même un immense site, un immense pâté de maison qui doit intéresser beaucoup de promoteurs en plus. Mmh. Parce qu'on a vu passer en plus sur Internet un dossier avec qui vantait les superficies et les possibilités du site. Donc là, il y a quand même de grosses inquiétudes hein, pour les salariés.
Pour les auditeurs, les auditrices, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent soutenir la lutte, comment ils et elles peuvent aider à distance ou venir au rassemblement
On va voir les formes d'action qu'on va avoir ces prochains jours. On a une rencontre encore le 21 avril. On a les Allemands qui reviennent nous voir pour valider les scénarios et nous donner les orientations, sachant qu'on n'aura pas de solution définitive avant le mois de mai, avant la mi-mai de toute façon.
Mi-mai 2016.
Donc le mi-mai 2016, on devra avoir le choix d'un scénario définitif et après le déroulement de tout un plan qui va habituel avec plan de départ en pré-retraite, plan de départ volontaire, etc. Toutes les pistes habituelles, parce que c'est une chose qu'on peut pas leur reprocher, Bosch, c'est qu'ils savent bien traiter ce genre de sujet. Ils font marcher le chéquier. Ça anesthésie beaucoup les...
Il y a eu des cas de répression syndicale, des convocations au conseil.
C'est
plus l'autre manière.
Ça se passe très bien parce qu'on fait
le chéquier.
Dès qu'il y a un problème, on fait un chèque.
Ouais.
Et ça anesthésie complètement. L'image de marque ne subit rien du tout. Ils sont très très soucieux de leur image de marque. C'est un peu pour ça qu'on a fait une action aujourd'hui. C'est pour essayer de montrer que on aime notre travail, on est content d'être ici, mais on voudrait justement conserver notre travail parce que on s'investit beaucoup, les gens sont investis énormément dans les technologies, on a fait énormément de progrès, on a fait beaucoup progresser et le groupe en a profité, faut pas se leurrer.
Sur le dos des salariés.
Sur le dos des salariés. Et avant, il y avait un échange donnant-donnant, et maintenant, c'est à sens unique, et on n'a aucune garantie, même avec les 110 personnes qui partiraient, on n'aurait aucune garantie sur un devenir du site. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus. Nous, ce qu'on veut, c'est un avenir. On veut bien faire le dos rond, on veut bien faire des économies, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Et quand on voit le climat avec les nouvelles lois qui nous tombent dessus, aussi bien au niveau représentativité, au niveau facilité de licenciement et autres, ça va être très compliqué, quoi.
Mmh.
On sent que ça va être très compliqué.
Voilà. Les salariés de Bosch, vous comptez venir à la manif samedi 9 à 14h Jean Massé.
De toute façon, on y était déjà la semaine dernière, donc on continuera, c'est sûr. Si on a choisi le 5, c'est aussi un peu en parallèle avec l'action des jeunes, qui sont là cet après-midi et qu'on soutient, forcément, c'est sûr. Hein. On ne voit pas l'avenir en rose pour les jeunes, on ne fait que de la régression sociale. Et il paraît qu'on a un gouvernement de gauche. Cherchez l'erreur.
Donc voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu avec l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes. Donc merci aux camarades qui a fait cette interview. C'est toujours bien d'avoir des
petits camarades au pluriel parce que je pense que c'était assez clair, quoi, en fait.
Ouais. Donc du coup là, c'est plutôt bien d'avoir comme ça des petites prises de parole sur ce qui peut se passer, notamment sur Lyon et les alentours au niveau des luttes sociales. Et en parlant de luttes sociales, pour toujours permettre de récupérer mon souffle qui est toujours pas revenu comme il faut, et ben on va faire un premier jet de lutte sociale.
Oui, dans la même veine, de toute manière, Bosch et d'autres, c'est dans la même situation, les travailleurs et travailleuses. Je vais commencer par la capitale, Paris, avec une lutte des occupations. C'est presque le quotidien des personnes sans papier. Faut pas les oublier non plus, dans tout ce marasme. Donc ainsi, le 27-01 se rappelle donc une première sur 2016. Ça a amené des personnes sans papier et leur soutien, amené une action d'occupation de l'inspection du travail. Il faut frapper fort des fois pour faire bouger et aussi bouger le ministère du Travail, si on peut compter sur lui. Celui-ci il est resté statique ce 29 mars. Donc récemment, il y a eu une nouvelle action, 350 personnes sans papier. Les associations comme Droit Devant, Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, le collectif des travailleurs et travailleuses sans papier de Vitry ont posé donc leur requête pacifiquement à la Direction Générale du Travail. Alors se sont joints en soutien la CGT, le SNU, le TEF-FSU, je ne sais pas ce que c'est que ça, le TEF-FSU, enfin bref, un syndicat, une partie, une branche, et Sud Travail, donc une intersyndicale, j'allais dire canon, mais je le dis, canon, pour une nouvelle entrevue avec le ministère pour exiger la régularisation sans condition de tous et toutes les travailleurs et travailleuses sans papier sur preuve de relation de travail. Abrogation de la taxe OFI, hein, cette fameuse taxe qui veut dire, enfin OFI, ça veut dire Office français de l'immigration et de l'intégration. Exigée aussi, donc, abrogation donc de la taxe OFI est exigée pour un titre de séjour. Et aussi l'octroi d'un pouvoir de régularisation de l'inspection du travail sur preuve de travail. En ce qui concerne la taxe donc OFI, selon les soutiens aux sans-papiers, celle-ci est couramment dans la poche des patrons employeurs, sur le dos bien sûr des travailleurs régularisés. Une action de plus, donc ce 29 mars, qui s'inscrit dans la mobilisation actuelle contre le projet de loi travail, qu'il faut pas oublier. Donc. Ce projet qui, on l'a un peu oublié, attaque les droits de tous et toutes, et aussi surtout les plus fragilisés et donc vulnérables. Je veux citer les personnes sans papier. Dénoncer aussi la circulaire Valls de novembre 2012 qui étrangle les demandes de régularisation, livre ainsi les étrangers, les étrangères en demande à des employeurs, on peut dire des macros, hein, des voyous, des exploiteurs, des voleurs de tout droit du travail. Quant à l'administration, la DGT, donc la Direction Générale du Travail, elle tente d'isoler le mouvement. L'accès du bâtiment a été fermé. Plus d'un millier d'employés se sont donc retrouvés à la porte. Jeunes, il y a eu aussi plus important, jeunes forcés pour les sans-papiers. Alors la cause, c'est un blocus alimentaire mis en place par la direction. Un appel lancé à la solidarité des forces en lutte contre le projet de loi de travail et soutien à l'occupation de la DGT. La fameuse taxe OFI, hein, c'est une taxe qui est à plus ou moins 1000 euros, qui est payée qu'a payé l'employeur pour un sans-papier. C'est la personne sans-papier qui paye finalement, quoi, hein, donc, et qui est jugée discriminatoire. Autre chose, toujours sur la capitale, avec un retour sur le rassemblement des agents et agentes de la PHP. C'est une suite, hein, la semaine dernière, j'avais fait un petit compte-rendu là-dessus. Donc tout le personnel soignant de la et aussi administratif, hein, je pense qui s'était joint de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc ce 29 mars, jour d'une rencontre cruciale, la direction donc Martin Hirsch et le CHSCT qui lui était fort de deux expertises sur l'impact humain du plan de réorganisation. Alors il en ressort de ces expertises que épuisement, absentéisme, d'usure et burn-out, donc c'est une trilogie qui sera le quotidien des salariés en sous-effectif déjà et depuis longtemps. Et pour sa part, le directeur Martin Hirsch, la veille de cette rencontre, déclarait à un quotidien que la suppression des jours de repos extra-légaux, entre guillemets, reste applicable au 1er avril. La refonte, je cite toujours, des régimes de travail, suppression des RTT, flexibilité, ça sera pour le 1er septembre. Donc la couleur est mise, que les personnels soignants et soignantes et non soignants d'ailleurs numérotent leurs abattis. Il va y avoir de la bagarre, je pense, dans les semaines qui viennent. Et aussi, bien sûr, on peut penser aux patients et patientes. Et je dirais que là, c'est à suivre. Il y avait aussi, donc on a entendu à l'instant, mais j'avais fait un petit compte-rendu là-dessus sur la société Bosch, qui est vraiment mal, du moins les salariés de cette société, et depuis longtemps déjà, donc à Vénissieux. C'est un équipementier de l'industrie automobile et qui est en pleine mouscaille, du moins les salariés, travailleurs, employés, près de 900 emplois qui sont en danger de disparition imminente sur trois sociétés du groupe. Donc je cite Bosch Diesel, on l'a entendu tout à l'heure, Bosch Rexroth et Cilia, cette dernière société étant celle qui a amené une seconde activité depuis 2014 sur la production de panneaux solaires, sur la production donc de photovoltaïques pour sauver l'emploi à Vénissieux. Mais faut croire que c'est un four, si j'ose dire, et pas solaire. Et chez Bosch, bien l'intersyndicale a appelé à gréver donc ce 5 avril, donc hier, pour dénoncer la direction Bosch et sa politique du tout foutre à par terre. Le rassemblement a été proposé boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. Pour parler de chiffres, eh ben, il y a quand même quelques millions d'euros en délocalisant, hein, 450 millions à Rexroth, 50% de perte d'emploi. S'il y a, ben, c'est 168 emplois quand même, hein, qui risquent de partir en fumée. Il manquerait ici 8 à 12 millions pour que la société puisse vivre. Et puis Bosch Diesel, ben, c'est une recherche, c'est des recherches et développements, 300 personnes à la production, et cela c'est à court terme ou à plus moyen terme, enfin voilà. Mais la société Bosch, il faut dire qu'elle n'est pas malheureuse dans le truc, puisqu'il y a quand même une surface assez importante là-bas, hein, les locaux, il faut voir. Hein, moi je connais ça depuis pas mal de temps, il y a 17 hectares de terrain, et doit faire une excellente plus-value en cas d'arrêt total donc de l'activité sur Vénissieux pour Bosch.
Ouais, donc ces salariés-là étaient donc dans la rue, comme vous l'avez entendu, le 5 avril dans le cortège des manifestants contre la loi de travail, et le sera aussi le 9, du coup, donc n'hésitez pas à passer les voir aussi s'ils voyaient dans le cortège. On en parlera tout à l'heure de la manif du 9, mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller alors souhaiter bon courage et tout ça et tout ça, et à passer sur les piquets de grève.
Compiègne maintenant, donc c'est dans l'Oise, hein, nous avons là un rassemblement de soutien à une déléguée syndicale, c'était le 4 avril, de une déléguée syndicale de la CGT FAPT, FAPT, on dit FACT, Belinda, c'est son prénom, de chez Web Help, à La Croix-Saint-Ouen, dans l'Oise. Donc à côté de Compiègne, et qui est un centre d'appel, environ 500 salariés. La CGT a accompagné donc la CFDT aux dernières élections, puisqu'il y avait la CFDT qui avait pris donc le pouvoir, on peut dire, dans cette entreprise. Ben maintenant, il va falloir faire avec la CGT. Donc c'était des élections professionnelles. La CGT a remporté 36%, donc ça compte. Et ce n'est pas le grand amour depuis entre les deux syndicats. Bref, Belinda, elle, a mené campagne, ce qui lui vaut aujourd'hui les misères de la direction, aux bons soins, évidemment, de la CFDT, qui s'en gêne pas d'ailleurs. Mais tout ça selon des dires de selon la CGT, hein. Voilà, donc une grève en décembre 2015 qui a amené donc la CGT, qui a été menée par la CGT sur 24 heures pour remporter des augmentations salariales, des contrats à durée déterminée ou autres en CDI. Une amélioration des conditions de travail, etc., etc. Donc, on a eu là-dessus les chaudes larmes de la CFDT qui étaient complètement décontenancées, toujours selon la CGT, hein. Je fais un peu le perroquet, là. Donc, c'est une hégémonie brisée qui oblige, là. Donc, la CFDT a pleuré un peu. Il y a eu un retour de manivelle sur Belinda. Un retour de manivelle de la direction, bien sûr, puisque la meneuse est dans le collimateur et subit les affres, alors qu'elle est une salariée protégée et aussi une salariée handicapée, puisqu'elle est RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Alors je le précise, car bien dégueulasse, la direction la prive de matériel adapté, pressions diverses, etc., etc. L'inspection du travail est sur l'affaire et mène son enquête. Le 9 février, Belinda est convoquée pour un entretien préalable à licenciement en pleine période de NAO, donc elle peut pas faire son travail correctement de syndicaliste. Argument des patrons de Web Help, la déléguée syndicale aurait eu un différend de voisinage. Ils vont chercher vraiment la petite bête quand même, quoi. Alors, ça tient de la vie privée, hein, ça les regarde pas. Et aussi une suspicion de faute. Alors laquelle ? Point d'interrogation là aussi, parce que ce n'était pas précisé. Le licenciement a été voté en comité d'entreprise avec tout le consentement de la CFDT, s'il vous plaît, qui a pris soin même de virer un de ses éléments qui était contre ce licenciement et de le remplacer par un autre, évidemment, qui était pour, et toujours selon la CGT. 4 voix sont sur 6, 4 voix de la CFDT. Eh bien, vous avez compris, hein, le licenciement est en cours. L'avis de l'inspection du travail est attendu, donc ce qui pourrait peut-être changer quelques avenirs pour Belinda. Donc il y avait chaude ambiance chez Web Elf. Web Elf.
Elf. Et bien, dis-donc. Au secours,
c'est ça. Oui. Voilà pour ce qui est cette première page.
De lutte sociale.
De lutte sociale.
On va se faire du coup une petite pause musicale.
Allez,
je te laisse annoncer tout ça.
Une pause musicale. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a Kima. On va écouter Kima, le salaire, justement, ça tombe bien. Pour tout ce qui se passe en ce moment, le salaire de labeur.
Pour moi, la définition du travail, c'était un échange de mes compétences contre de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, ma définition du travail, c'est plutôt l'exploitation de l'homme par l'homme. J'utilise selon nos compétences pour faire fructifier leurs intérêts à eux. Les gens, ils se rendent plus service s'ils s'utilisent. C'est dommage. Il y a deux sortes de souvenirs. Les souvenirs liés directement au travail, aux conditions de travail, et ce mauvais souvenir lié à ce que le travail m'a empêché de faire ou à cause du travail. Un Noël, quand j'étais en apprentissage, j'appelle ma mère tranquille, je dis allô, j'ai débarqué, tout ça. Elle me dit on n'avait pas prévu que tu viennes, alors moi je dis laisse tomber, c'est pas grave, je vais pas vous embêter. J'ai passé la soirée avec des collègues de boulot à boire du Malibu, du whisky, à se lever avec un mal de bide. Et l'autre type de mauvais souvenirs liés au travail, c'est dans le travail lui-même. Je me suis jamais levé le matin avec des mains aussi rêches, en arrivant à peine à me rouler les cigarettes tellement t'as les mains qui te font mal le matin. T'as du mal à sentir la peau de ta copine ou puis les pieds. Toi, je travaille dans la restauration, alors les pieds dans l'humidité, les pieds, les mains, toute la fatigue. C'est quelque chose que malgré tout tu supportes, mais je crois que si t'avais le choix, c'est tout. Ce que j'aurais fait si j'avais pas travaillé, je me serais peut-être cultivé plus, j'aurais porté plus d'attention aux gens, plus d'échanges, parce qu'aujourd'hui on est vachement seul à s'occuper chacun de sa petite merde, prendre le temps d'aimer les gens, prendre le temps de respirer, quoi, se construire, et pas finir bossu avec les mains sèches, quoi. Tu te lèves, bon, tu vas pas prendre ta douche, hein, normal, soit tu la prends l'après-midi, soit tu la prends le soir avant de te coucher. Tu te lèves, hop, tu mets ton pantalon, tu te mets les pieds dans les grottes de cuisine, tu roules un petit peu tard, histoire de savoir où tu vas sans savoir, quoi. Tu travailles jusqu'à 15h, ça speed, tout ça, on te gueule dessus, t'as à peine le temps de manger, ensuite 15h, 15h30, t'as ta petite pause. Tu penses à quoi? Tu fumes des gaz, tu vas à la boulangerie acheter un truc à bouffer, tu fumes 2-3 parties d'échecs avec tes potes, enfin tes collègues, qui deviennent tes potes par évidence. Et ensuite tu recommences à 18h30, et puis t'enchaînes jusqu'à 11h minuit, une heure parfois. Et puis après minuit, t'as fini, t'es sur les rotules, mais à la fois t'as du speed. Donc tu vas boire un coup, tu rentres à 2-3-4 heures du matin, et puis tu te réveilles le lendemain matin, et tu recommences, et puis arrive le week-end, et puis... Repose le premier jour, le deuxième jour tu essaies d'en profiter, mais les nerfs se relâchent, alors t'es pas en super forme et après tu retournes au travail. Voilà, hormis les 5 semaines de congés payés, c'est comme ça. 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 C'est comme ça.
Donc